choix. Choix. 98.1. Toujours. Radio X. Morey. Live. En vacances. Live.
Radio X. On vous souhaite de passer un bon vendredi. On est le 7 août 2020. Dernière représentation du spectacle du show du matin. Cet été, à partir de lundi, Dom Morey et toute son équipe vont être en place. Par la suite, ça va être DH avec Camille, Jeff qui revient avec l'excellent Jerry et Dom Dumas. En après-midi, la belle Véro, oui, avant Denis, là. Véro va être là. Denis devrait être là aussi. Et Richard ainsi que Jordan devraient se joindre à l'aventure. Lundi, puis par la suite, 18h, on est rendu là, Camille?
On est rendu là.
Marceau le soir qui commence 2h plus tôt.
Tu es rendu là.
Ouais.
Tu?
Ah non, c'est vrai, tu m'as flushé pour un plus riche encore.
Oui, puis j'ai l'impression que tu laisses la présentation de ta nouvelle co-animatrice lundi. T'en parles peu?
J'en ai pas parlé.
Tu es l'homme de peu de mots à son sujet.
Bon, ça se peut, je change d'idée. Là. Ça se peut, je change d'idée. Là.
Tu sais où me trouver.
On va commencer à essayer de savoir son rapport avec l'argent. Là. Si je m'aperçois qu'elle aime trop l'argent, ça va faire comme toi, elle va me quitter pour un autre à un moment donné. T'sais, moi, je les prépare, puis après ça, les autres m'évolent. Tu sais ce que c'est.
Mais tu sais que je vais toujours être là. Hein?
Ah oui.
Ah, vois-tu, ça va passer proche encore une fois. Puis finalement, non.
L'excellente Chloé va être avec moi. Par la suite, ça va être JC Wallet en direct avec Camille.
Avec moi, ben oui.
Ouais, et après ça, ben, ce sera le Last Call avec les auditeurs du Last Call de Radio X. Marc Desgagnés d'M2 Gaming, salut mon ami.
Hey, comment ça va?
Je suis content de te voir.
Ah oui, moi aussi.
Je suis content de te voir.
T'es toujours beau,
mon
bonhomme.
Dernier invité. Hein? Tu parles de qui, de moi ou de toi?
De moi, voyons.
Ben oui.
Tu me l'as dit tantôt.
Ouais. Je t'ai dit ça?
Ah oui.
Bon menteur, hein, tu y as cru.
Je sais ça, tu l'as pas mal.
Incroyable.
Comment ça se passe dans le monde du jeu vidéo ces temps-ci?
Ben, si on parle de tout ce qui s'en vient, ça brasse. C'est sûr que ça brasse, là, il va y avoir une supposée guerre de consoles à la fin de l'année. Je crois que d'après les stratégies de un et de l'autre, ça sera pas une guerre comme on l'entend ou comme on a connu dans le passé.
Mais me semble
très différent.
C'est ça, cette guerre-là persiste depuis au moins 15 ans.
Et plus. Oui, là, c'est sûr, parce que là, c'est Xbox versus Sony principalement.
Ben oui.
Nintendo sont comme dans un créneau à part. Ils ont pas mal toujours été à part, part quand on remonte des années, peut-être les années 80, là, avec Sega dans le temps-là. Dans ce temps-là, c'était Sega puis Nintendo. Puis là, c'est vraiment Sony et Microsoft qui s'affrontent assez solidement.
T'as-tu l'impression qu'avec la pandémie, le fait qu'on ait été confinés pendant quelques semaines, là, il y a des gens qui ont développé comme une nouvelle habitude de rejouer à des jeux vidéo? Je parlais avec mon chum Sam, que je salue, qui est un auditeur, qui, lui, pendant tout le temps où il était confiné, il est célibataire. Fait que tout ce qu'il faisait, c'est jouer à des jeux vidéo. Il s'achetait avec sa carte de crédit, il s'achetait des jeux vidéo, puis il se téléchargeait ça. Et lui, là, il me dit que la désintox, c'est pas facile.
Non, puis ce qui est drôle, c'est qu'avec toute l'histoire de pandémie, tantôt je faisais une joke quand j'ai croisé Dan dans le couloir, je disais, hey, il venait de se laver les mains, tu sauves des vies, puis tu te rappelles-tu de la pub qui jouait, qui disait, je jouais à des jeux vidéo, je sauve des vies, ça a l'air niaiseux, mais je pense que ça n'a pas tombé dans l'oreille de certains sauts, puis là, tout le monde s'est pitché, hey, j'ai une raison là, d'aller m'écraser dans mon divan, pour vrai, puis de gamer.
La bonne femme va arrêter de chialer.
Exactement, sauve des vies, madame est contente, puis ça a apparu, parce que j'ai reçu des statistiques récemment, puis on en parlera peut-être dans un des prochains shows. Les statistiques, là, au niveau de la consommation et les ventes de jeux en ligne, là, c'est débile. Débile. Les compagnies, là, peu importe la plateforme, là, ils ont toutes fait des espèces de profits et des ventes absolument hallucinantes.
T'sais, ceux qui ont vu ça venir, moi j'avais parlé avec Pierre Couture et il me parlait de ce qui se passait en Europe là, avec la COVID et tout ça. Ouais. Moi, ce que j'avais en bourse, là, j'ai un petit peu d'argent en bourse, j'ai tout transféré ça sur l'or alors que les experts nous disaient de ne pas faire ça, que c'était donc bien terrible puis de continuer d'être patient. Tout transféré ça sur l'or, j'ai été gagnant. J'ai fait de l'argent pendant la pandémie.
Fait que c'est toi ça d'endetter à millionnaire.
Mais non, vraiment pas. Mais à revenir à l'arrière, là, j'aurais dû penser à l'industrie du jeu vidéo.
Oui, je sais pas à quel point c'est comme toi, au niveau stratégique, niveau bourse, des choses comme ça, à quel point ça peut être payant.
Ah, c'est sûr ça l'augmentait à certains endroits. Là.
Je connais rien là-dedans. Faudrait qu'on se rencontre après et que tu m'aides à faire
de
l'argent.
Là, il est trop tard. Là,
non, mais il y a de l'or. Ça. Il va toujours en avoir.
De l'or, oui. On a passé un beau cap en plus hier. Là. Hey, on n'est pas là pour parler d'argent.
Non?
On n'est pas là pour parler d'argent. On parle de jeux vidéo. Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Hey, je voulais juste te poser une question, soit en partant, à vous deux. Vos films préférés, c'est quoi?
Ah, genre,
vite de même, là. Juste un qui te pop à l'esprit.
Top Gun, Rocky, Commando,
okay.
Rambo.
Tout ce qui est film très...
Die Hard, masculin.
Ben, pas masculin, mais ouais. Des films dits de guerre, dit, d'action.
Je t'avais dit Dirty Dancing.
Des films de gars.
Non, je ne saurais pas juger. Non. Moi, j'aime bien les Star Wars. Hein. En termes de bon, musique, ça. C'est assez sacoche.
Ben, on va prendre Star Wars, parce que je trouve que c'est vraiment un super bon exemple.
Ouais. Merci.
Star Wars, t'écoutes Star Wars, là, Camille. Là.
Oui.
J'enlève toute la portion musicale.
Il y a
comment
plus
tu trouves le film?
Il n'y a plus d'essence.
C'est plate, hein?
Il y a du malaise. Ah, ça oui, prend hein? Des bruits de sable laser. Avec...
Exact.
Mais oui, ouais. Ça prend un orchestre qui augmente le niveau de stress.
Exactement. Fait qu'on s'entend que la musique dans une œuvre comme ça, une œuvre audio-vidéo, là, ben, c'est facilement 50% de la job. Là. Ça fait voyager tes émotions, pis quelque chose comme ça.
Mm.
Ben, dans le jeu vidéo, c'est exactement pareil. Là.
Mm-hmm.
Fait que les jeux vidéo, pensez-vous que la musique a toujours été présente depuis que ça existe?
Oui.
Est-ce qu'il y a eu un moment où on a eu des jeux vidéo muets, comme le cinéma?
Ben, pas muets, ou presque, parce qu'il y avait quand même des petits sons.
Ouais.
Mais tu dis muet, rendu là, on pourrait presque dire muet. Parce que blip, poing, blip, c'est pas grand-chose.
Ah, moi, le son qui m'énervait le plus, là, c'était à l'arcade Pac-Man.
Oui, mais... Exactement.
C'était épouvantable.
OK. Ben, à quelle année vous pensez que ça a commencé, mettons, on va dire que la première musique par ordinateur a été créée?
Moi, je vais mettre ça en même temps que comme le gros phénomène de console, fait début 80.
Oh non, fallait que les ordinateurs existent.
Ben.
1940, début 50?
T'es pas loin. 1951. En 1951, on réussit à créer à partir des ondes, ben là, tu sais, les ondes FM, vous connaissez ça avec la radio, ouais. Ben, la fréquence de modulation, la modulation de fréquence plutôt. On a commencé à expérimenter ça pour essayer de créer avec l'ordinateur, de le faire interpréter puis de faire de la musique. Ce qui n'existait pas, là, c'était une première en 51, on n'a jamais fait ça avant. On réussit à faire ça avec un ordinateur qui s'appelait un Ferranti Mark I. Tous ceux qui ont vu des films des années 50, là, qui nous faisaient, mettons, visiter le futur, qu'est-ce que ça serait. Ouais. Tu sais, les espèces de gros panneaux d'ordinateur LED à 863 000 boutons qui flashent.
Oh mon Dieu, ben, oui!
C'est ça. Fait que ça ressemblait à ça. C'était pas super élégant. Puis là, on réussit à faire la première... genre chanson, il y en a essayé plusieurs, qui était le fameux God Save the King. À ce moment-là, ça s'appelle God Save the King, parce que c'est vraiment ça. Ce que maintenant, on connaît comme étant God Save the Queen, qui a été changé, évidemment, puis qui est l'hymne national britannique. Fait que si tu veux peut-être essayer de faire entendre ça, juste pour donner une idée que ça avait de l'air.
Si. Oh boy!
Ça, c'est la première musique de jeu vidéo.
Ben non, première musique par ordinateur.
Par ordinateur, okay. 1951.
Fait que ça prend un précédent pour être ensuite capable d'amener ça dans un jeu vidéo. Mais là, ouais. Dans un jeu vidéo, c'est sûr que ça c'est pas interprété de la même façon. Les puces, les micro-puces, ou même les programmeurs qui essayent de faire ça pour être capable d'avoir une réaction directe,
ouais.
C'est pas évident. Fait que ça va aller plus tard, en 78, qu'on réussit à mettre ça dans les jeux vidéo.
Je fais une parenthèse,
plus.
Marc, ouais, avant que tu continues, là, ouais. Parce que le son que tu viens de nous faire entendre, là, j'ai comme un traumatisme flashback de la poupée parlante de Thomas Edison. Tu sais, des sons qu'on on fait une grosse tentative, mais ça sonne comme un film d'horreur.
Ah non, c'est très monocorde.
J'ai eu des frissons, j'ai pas trippé, mais c'est très intéressant.
Ben, voilà, la dernière chronique, tu me disais, tu fais ça jouer, je pense, l'extrait de Contra, puis tu disais, ouais. Hey, ça, nos parents devaient être tannés d'entendre ça.
C'est
ben, imagine-toi ça. Là. Ça, c'est encore plus. Tu veux te rentrer un couteau dans l'oreille, c'est sûr.
Puis même, à la limite, là, le premier Mario, là, Super Mario. Là.
Ah, c'était pas. Non. Ouais. Mais regarde, on va sauter parce qu'il y a beaucoup de stock. Fait que
on a même pas besoin d'expression.
Ouais, c'est ça, c'est lui qui va y faire. Mais là, c'est pas pire, t'as une mélodie.
Ouais.
Parce que les premiers jeux vidéo, pour être considérés comme une musique, ça prend un rythme. Fait que là, tu dis, OK, ça prend, toi, t'as une mélodie, t'as un rythme, t'as une mélodie. Mais la première chose, pour être c'est un paquet de sons qui fait un rythme. Fait que le premier arrive vraiment avec Space Invader. Rappelez-vous Space Invader?
Space Invader, ouais. 1978.
À l'arcade, qui va avoir non pas une musique en tant que telle, mais une bande derrière qui est un rythme qui augmente selon, tu sais, tu voyais les petits bonhommes descendaient là, dans l'écran, puis plus ça venait stressant, bien plus que ce rythme-là augmentait. Accéléré. Là, c'était considéré, vu que, oui, ça changeait, puis que c'était un rythme, que là, c'était considéré comme la première musique. Tu veux peut-être l'essayer, mais c'est sûr que c'est pas évident à faire jouer. Essaye-le. On va voir.
Et que ça me rappelle des souvenirs.
Ouais. Fait que là, c'est... tu vois le petit son de rythme.
Ouais, ça commence à accélérer.
Il augmente tranquillement.
Ouais.
Plus ça devient stressant. Fait que là, à partir de là, c'est là les premières notions de, de musique. Dans
ça,
les
petits bruits qu'on entend, c'est des extraterrestres qui se font tirer, c'est
ouais,
ça?
Exactement.
Space Invader, là, est-ce que, moi, j'ai joué à ça, mais je me souviens pas si c'est sur Atari ou encore Coleco.
Ben, il était à l'arcade, puis il est sorti, je pense, sur à peu près toutes les plateformes. Okay. Après, je pense qu'il avait ColecoVision, Intellivision, je crois aussi. Puis Atari, évidemment, sur la 2600, je crois. Mm-hmm. Fait que, ensuite de ça, si on move un petit peu plus, on s'en va, là, tu l'as dit tantôt, on s'en va, la première vraiment notion avec une, on va dire, une mélodie, c'est arrivé dans Pac-Man. Pac-Man, en 1980, qui arrivait avec, fait jouer l'extrait. Bon, ce que tu viens d'entendre là, si tu l'arrêtes, ça, là, c'est juste ce petit bout-là qui jouait. Ouais, là.
Tout
le temps. C'était en loop tout le temps. Fait qu'il n'y avait pas 22 000 chansons puis tu sais, des sortes de tracks. Là, c'était juste ça constamment tout le long.
Quand il mangeait les pastilles.
Exactement.
Ouais.
Fait que ça, ben là, au moins, on a une notion de ce qui était mélodique.
Camille, t'as quel âge, là?
Moi, genre 23 ans.
Imagine-toi avoir
très
des...
bientôt.
Imagine-toi avoir des enfants puis entendre ça tout au long de la journée.
Puis j'en ai parlé l'autre jour. La musique de Minecraft est pire.
Oui.
Tu t'as l'air de quelqu'un qui veut aller se magasiner de la corde, là.
Ah, c'est la musique ambiance.
Ta mère arrivait, puis qu'est-ce qu'elle disait, Marc? Baisse le son.
Mais c'est ça, j'espère.
Puis il y avait raison, c'était pas. C'était énervant, là.
Faut-tu être hypnotisé pareil, parce que tu finis par ne plus l'entendre, tout simplement. Là. T'es concentré sur ta game, là.
Ouais. Ouais. On va monter un petit peu plus. Nintendo arrive dans le coin de 80-81, commence à jouer dans la. Autrement dit, dans les consoles qui étaient plus... tu sais, avant, c'était Atari, c'était Coleco, comme on disait, pis ça. Nintendo arrive, lance Donkey Kong, tout ça va exister aussi avant, mais il va arriver, puis ils vont faire leur propre jeu aussi, puis ils vont nous permettre d'avoir des jeux vraiment un peu plus, comme tu dis, avec Mario, mm-hmm. avec toutes ces franchises-là qu'on connaît, Zelda et compagnie, qu'on va avoir vraiment des semblants de musique un peu plus intelligentes et un peu plus intéressantes, surtout parce que à ce moment-là, les studios commencent tranquillement, parce que les studios, c'était pas gros là, dans le temps, là, commencent vraiment à avoir des gens qui vont être attitrés vraiment à dire « on va créer de la musique ». Fait que t'as une personne qui s'occupe vraiment de composer de la musique, ce qui n'était pas existant avant. Avant, c'était des gens, le programmeur qui s'occupait de faire afficher le petit bonhomme dans l'écran, mais c'est lui aussi qui s'amusait à essayer de faire un son, à essayer de faire des sons avec pour le jeu. Fait que c'était pas pareil. T'sais, un compositeur est vraiment habilité, si tu veux, à faire de la musique. Puis ça va avoir une incidence aussi dans les jeux. Ça va venir t'accrocher ou ça te fera pas accrocher. Tout dépendait du mood. Alors, on va aller plus loin, les amis. Journey arrive sur la Atari 2600 en 1983. 1983, c'est pas mal là qu'on a commencé à avoir des groupes de musique qui commençaient à avoir des jeux à l'arcade. Je sais pas si c'était l'extrait pas loin. Journey, c'est le band que tout le monde connaît, le fameux groupe rock. Ben là, lui, ils ont sorti un jeu à l'arcade, puis ils ont sorti un jeu aussi pour les consoles dans ce temps-là, qui était niaiseux. Là. Un jeu sur console, ben, il fallait que tu te sauves des photographes puis des paparazzi.
Ouais, est-ce que je me trompe ou Aerosmith
fait
un jeu
sans... Tout le monde en a eu, mais plus tard aussi. Okay. Plus tard, Iron Maiden en a. Il y a plusieurs groupes qui en a aussi. Ça, je suis en train de préparer une autre chronique là-dessus, justement. Tu te retrouves-tu, Yann?
Je te sors ça parce que moi, il faut que je fasse des manœuvres.
Ben oui. DJ Marceau.
DJ Marceau.
C'est surtout avec les publicités, des fois. Là,
ouais,
faut attendre
c'est ça.
Un petit peu.
The No Swear Gamer.
Ah, ça, tu vas reconnaître ça.
C'est justement ce que j'avais demandé, si c'était reconnaissable. Oh, ouais. Mon Dieu. C'est quand même hot.
Et là, ça rock.
Ça, c'était sur Atari.
Ah ouais. Et à l'arcade.
The Journey Escape. Atari 2600. J'ai jamais joué à ça.
Ouais.
Jamais joué à ça.
Si on remonte tantôt, on disait, on parlait de la Nintendo Entertainment System, la fameuse NES en 85. Ben évidemment, t'as Tetris, puis Super Mario Bros. Si tu veux faire jouer un extrait de ceux-là, tu vas peut-être reconnaître plus Mario Bros. Évidemment, qui ne connaît pas la trame sonore de Mario Bros.
Tu veux que je commence par Mario Bros?
Ouais, vas-y que celui-là, on va y aller pour faire ça vite, parce qu'il y a beaucoup de stock.
Ouais, on a un peu de temps,
Ouais, OK. Ah. Ça, ben, on s'entend que ça va rester dans la tête de plusieurs personnes pendant très longtemps.
Hein? Puis, il y a encore des concours de vitesse à Super Mario Bros. Ça existe encore aujourd'hui, ben en 2020. Là.
Des speedruns?
Ouais.
Ben oui, il y en existe dans à peu près tous les jeux possibles.
Toi, tu fais ça, toi?
Non, je n'ai pas de temps à perdre. Désolé, il y a des gens qui sont bons pour faire ça. Moi, j'ai pas la patience.
Ah ouais.
Là, pas patience du tout,
J'ai joué avec l'émulateur là, à Super Mario Bros. Avec mon gars. Puis à un moment donné, il y a un endroit où il faut que tu cours avec Mario Bros. Tu le mets en petit, mais tu le fais glisser en dessous des blocs. Écoute, ça a dû prendre 2 heures à mon gars avant d'être capable de le faire. Il suait du front.
Ah oui. Ben, d'ailleurs, tu sais...
C'est la première fois que je le voyais aussi patient que ça après quelque chose.
Les jeux qui sont sortis récemment, qui s'appellent les Mario Maker, que les gens s'amusent à faire des niveaux impossibles, ben, t'as des gens qui s'amusent à essayer de les réaliser puis de les faire, là. Puis c'est hallucinant, là, parce qu'il y en a qui font des choses, tu te dis, tabarouette, c'est impossible de faire ce tableau-là. Non, non, il y a du monde qui vont passer des heures interminables à essayer de le faire, de le réussir de A à Z, puis il arrive. Puis quand tu vois ça, c'est impressionnant, là.
Un de mes jeux préférés quand je vais aux toilettes, Tetris.
Version de casse-noisette.
Ah oui, dans Tetris.
Je savais même pas si c'était casse-noisette. Je te disais, c'est la toune de Tetris.
L'étendue de ta culture se fait sentir.
C'est pas vrai, j'y ai été plusieurs fois. Wow!
Mais jusque-là, on s'entend que la musique, ça, comme tu disais souvent, ça tombe quand même sur les nerfs de nos parents.
Ouais.
les petits sons, hein? Ça va aller plus avec la génération après, ce qui va être la Sega Genesis, la Super Nintendo, TurboGrafx 16. Jusque-là, on va augmenter un peu plus en 86. Mettons, dans le coin de 87, puis tout ça, où est-ce qu'on va arriver avec des choses un peu plus intéressantes? Je te dirais que les sonorités vont se raffiner un peu. Ça demeure ce qu'on appelle du chiptune, ce qui est de la musique faite avec via le biais d'une micropuce, donc de la musique programmée, qui est quand même pas si pire. Si tu prends NEC, qui était un super gros constructeur japonais à ce moment-là, en 87, quand ils ont lancé la TurboGrafx en Amérique, ben, tu avais une qualité sonore qui était déjà mieux. Je sais pas si t'as un extrait pas loin.
Comment la musique pouvait être programmée à ce moment-là? C'est-tu vraiment en fonction du code binal, le 1-0-1-1-1?
Carrément.
J'imagine la personne qui est mandatée pour faire ça.
Tu me parles d'une grande innovation, là?
Ouais, grande innovation vaut au premier extrait.
Parfait, je te fais ça à l'instant. Ah, tu tirais des haches, hein, ce jeu-là?
Oui. Ouais.
The Legendary Axe.
Ouais. Tu vois que tranquillement, le son, c'est plus dans la qualité du son que ça change, parce que oui, c'est encore chiptune, un peu comme la mode du 8 bits, mais là, on tombe en 16 bits. Fait que le sonore est encore un petit peu plus intéressant, mais c'est pas encore l'apogée. Même si tu vas plus après.
T'es en train de faire exploser mon texto, toi.
Ouais,
c'est malade, hein?
L'extrait juste après, là, ça, c'est quand NEC ont décidé de lancer, puis ça, c'était la première grosse innovation. NEC est arrivé avec un lecteur de CD-ROM attachable après la TurboGrafx. Ça a été les premières fois qu'on avait des jeux sur CD-ROM à la maison sur une console de jeux vidéo. Puis moi, ben, un de mes classiques que j'aime, que j'adore d'amour, qui est Is Books 1 and 2 encore aujourd'hui. Si tu veux l'essayer puis avancer à peu près autant que je t'ai mis, ça va te donner une idée de ce que ça donne.
Faut que je le mette jusqu'à où, là?
À une 12
à peu près. Sinon, ça va être trop long pour rien. Mais ça te donne une idée que là, on arrivait à vraiment la vraie musique. Tu sais, des vrais instruments, des vraies voix. Ça, c'était la patente. Hey, on capotait là, quand on a mis ça dans notre lecteur. On n'avait jamais entendu ça, des vraies voix dans notre machine. Ça donnait ça.
Once a country so peaceful and prosperous. A country where children were as free as the wind.
Oh.
A country where harmony blew through the hearts of all men.
Ease.
A kingdom ruled by. C'est en quelle année, ça, Marc?
89, me semble. 89. Dans ce coin, ouais, dans ce coin-là. Fait que ça, c'est vraiment... en tout cas, c'est pas mal la première base, si tu veux, de la musique. Sauf que c'était compliqué parce que sur un CD-ROM, il fallait que tu réussisses à rentrer la musique. Puis de la musique, ça prend beaucoup de place. Puis, surtout si tu as de la vraie musique, puis il fallait que tu rentres les informations du jeu aussi. Mais sur un CD-ROM, tu avais, dans ce temps-là, 700 mégaoctets d'espace, ce qui n'est pas la grosse affaire.
T'sais. Ça n'a pas toujours été des MP3.
Ça n'a pas été tout le temps des MP3, puis la musique compressée. Puis même des MP3, tout le monde va dire « Non, c'est pas de la qualité si tu compares un audio sur un vinyle. » Puis bon, vous avez tout le débat, là.
Hey, j'ai montré à mon gars de 6 ans, c'était quoi une cassette audio du temps?
Oui.
C'était, je pense que c'était une cassette d'Elton John, là.
Oui, oui.
Mais il n'y avait aucune idée c'était quoi. J'y ai montré ici, quand je suis venu ici, là, on a un studio, nous autres, dans un des booths là, de production,
ouais,
où il y a encore un téléphone à fil.
Mm-hmm.
J'ai dit à Josh, « Josh, c'est quoi ça? » Il dit, « Papa, je sais pas. » Parce que lui, il est habitué avec les téléphones qu'on a. Mais tu sais, nous autres, on a des téléphones intelligents, là, on n'a pas de téléphone maison. Il ne savait pas.
Okay.
Mais t'imagines-tu que...
Où est-ce que cette génération-là
des cassettes de musique de même. Tu avais des jeux vidéo. Mettons, tu prenais un Commodore VIC-20. Là.
Ouais.
Ben, il fallait que tu mettes une cassette de même.
C'est vrai.
Tu laisses ça là-dedans. C'était épouvantable.
C'est absolument génial.
Ouais. Ça, on en parlera dans d'autres choses. On va sauter à Nintendo qui revient, qui frappe fort dans le 16-bit. Parce que oui, dans la guerre 16-bit, ça a commencé que tu as eu la TurboGrafx avec Sega qui faisait quand même une bonne job au niveau musical. Mais Nintendo arrive dans le domaine. Puis eux autres, avec quelques années de plus, parce qu'ils sont arrivés un petit peu plus tard dans la course aux 16-bits, ils étaient équipés, à bord du Nintendo, d'une puce de son Sony. Hein? Bizarre, hein? Sony, Nintendo, on va en faire un lien plus tard.
Ouais, c'est ça.
Puis cette puce-là, ben, elle permettait d'avoir 8 canaux de son, contrairement aux autres, puis d'avoir du son un peu plus stéréo. Puis ça donnait vraiment quelque chose de plus intéressant. Si on regarde des jeux comme Final Fantasy, qui était 6 au Japon, mais nous aussi en Amérique du Nord, on le connaît comme Final Fantasy 3.
Mm-hmm.
Ça, c'est une autre histoire.
Moi, qu'est-ce qui explique?
C'est plus rapidement. Que quand on a voulu introduire les jeux en Amérique, ils ne voulaient pas continuer exactement. Parce qu'en Amérique, c'était le troisième qu'on amenait en Amérique, mais au Japon, c'était déjà le sixième, tu sais, qu'ils faisaient.
OK.
Mais qui n'ont pas amené les six en même temps, ce qui fait que ça ne s'est pas suivi.
OK. Fait qu'on a fait comme nos
propres. Ils ont comme renommé, c'est ça.
Ah, d'accord.
Fait que Square a décidé de comme renommer ça. Fait que si on l'essaye, Final Fantasy VII, tu l'as, l'extrait vers 52 secondes. C'est de la musique chiptune, mais tu vois tout de suite que la qualité sonore, ça commence à changer. C'est pas comme un jeu sur CD, bien entendu, parce que ça demeure encore une console qui fonctionnait avec des chips de son.
Des cartouches.
Hein. Oui, des cartouches. Puis je veux dire, le processeur, c'était un processeur qui s'occupait du son et non pas un CD-ROM où la musique était jouée. Là.
OK.
J'avais jamais entendu ça.
Ça? Puis pourtant, ça, c'est la thématique de toutes les Final Fantasy.
J'ai jamais joué à Final
Fantasy. Partout dans tous les Final Fantasy.
J'ai jamais joué à ça, non.
OK. Pourtant, là, tu vas te faire...
Regarde Zelda, ça m'intéressait pas. Dans le temps.
Mais dis pas ça trop fort, parce que tu vas recevoir des haches à travers l'écran.
Dans le texto, ça va exploser.
En 90, il y a une console. La Neo Geo, ça te dit-tu quelque chose?
Ben oui.
Bon, ça, pourtant, là, c'était une super console. Mmh. C'était vraiment puissant. Ça avait une puissance 24 bits. Ça avait 15 canaux de son. Ça permettait d'avoir de quoi vraiment hors de l'ordinaire. Sauf que c'était vraiment trop cher par rapport à tout ce qu'il y avait sur le marché. Ça n'a jamais levé plus à cause du prix. Parce que sinon, si le prix aurait été là, je te jure que ça aurait ramassé pas mal l'industrie à ce moment-là. Il y avait un jeu, d'ailleurs, Magician Lord, si tu veux faire jouer l'extrait.
En quelle année, ça?
En 90.
90.
Puis, vois-tu, ces jeux-là, encore une fois, on parle encore de la musique faite à partir de micropuces. Puis pourtant, ça sonne très loin des consoles 16 bits.
Tu te mets ça dès le départ?
Oui.
Parfait.
On a
Magician Lord.
Magician Lord.
Ça se peut-tu que ce soit récent, ça, la Neo Geo Mini? On a refait un format arcade, mm-hmm. on dirait.
Ouais, ben ils en ont fait plusieurs. Ils ont fait des petites bornes d'arcade. Ils ont fait, ils ont fait plein d'affaires. Neo Geo a quand même toujours évolué puis continué à mettre des choses sur le marché, mais ça n'a jamais levé à hauteur des autres.
Mais à ma question, est-ce que ça, ça a été lancé en même temps que les mini SNES ou c'est vraiment de l'époque?
Non, non, c'est plus vieux un petit peu.
Ah ouais, ouais. OK.
T'as des SNK, mais ben SNK, qui est la compagnie qui détient la Neo Geo, eux autres ont fait des petits mini cabinets d'arcade. Ouais. Ceux-là, je sais pas si c'est ceux-là que t'as devant toi.
Oui,
là.
C'est ça que
je peux te montrer. Les petits mini cabinets, ça, c'est plus récent, par contre.
OK, mais parfait.
Tu t'as pas 22 000 jeux là-dessus. Là. En général, je me rappelle plus. Là, chez
t'as l'air en avoir quand même quelques-uns.
Ouais, j'ai acheté l'émulateur là, avec mon chum Kine. Là. Ouais. Il m'a vendu ça, je pense, 60-70$.
Ouais.
Puis je l'ai donné à mes gars à Noël. Il y avait 600 jeux dessus.
Ah oui.
T'as le fun à mon dire.
Ouais. Mais c'est des émulateurs. On peut supposer avoir le droit. En tout cas, hey, Sega.
C'est notre chum chinois.
Suivant TurboGrafx avec le Turbo CD, Sega fait pareil. Il lance un lecteur CD-ROM. Puis ça, ben, le premier Sonic CD, là, moi, j'avais trippé parce que moi et Martin qui avait acheté ça. On capotait encore une fois. C'était vraiment génial comme musique. C'était super avec des chansons chantées et des choses comme ça. Si tu veux faire jouer l'extrait. Là, ça sonne 80. Et pourtant, c'est en 92-93.
Ça, c'est Sonic.
Sonic. C'est catchy, ça a un hook. Ça me fait penser aux trames sonores des vieux dessins animés, ça.
Ouais. À la Pokémon, un peu.
Oui, exact.
Ça a l'air que le film est pas pire. Tu étais voir ça avec les enfants?
Hey, le pire, c'est que je l'ai même pas vu encore.
Non?
Non. Puis il faudrait, parce que apparemment que c'est vraiment bon. Fait que oui, je vais essayer ça. Ensuite de ça, ben, de 93 à aller peut-être 95-96, il y a beaucoup de flops qui se font, surtout à cause que le prix des consoles sont trop chers. La Panasonic 3DO qui arrive. Sega essaye de monter. Ben là, on essaye tout le temps de monter. Hein? Là, on était dans le 16 bits, là, on tombe dans le 32 bits. Ça se double tout le temps comme ça. Atari veut essayer d'arriver avec la Jaguar qui est une supposée 64 bits, ça pogne pas. Sega essaie de faire un genre de add-on à sa Genesis qui est une 32X pour la rendre 32 bits. Ça pogne pas non plus. Ça va attendre vraiment la révolution qui va arriver parce que il y a eu, ben, vous le savez, hein, il y a eu comme une chicane à un moment donné parce que Nintendo, à ce moment-là, dans l'arrière, travaillait avec Sony pour essayer de faire un lecteur CD-ROM pour la Super NES, la Nintendo, la Super Nintendo Entertainment System. Sauf qu'à un moment donné, Nintendo dit non, fuck that. non, on décide que nous autres, on croit pas à ça le format CD-ROM, puis c'est trop dangereux pour le piratage, tatata. Retire ses billes, ma fin au partenariat avec Sony. Sony frustré, servir de bord. Ah ouais? Ben, on va sortir tout seul notre console. Ça donne la PlayStation.
Oh!
Oui, oui. Puis là, la PlayStation, je peux te dire que Nintendo, encore aujourd'hui, doit se mordre quand même les doigts. À part que la Switch va bien, là, mais je veux dire, pendant une longue période, ils ont dû se mordre les doigts pas mal en voyant le succès de la PlayStation. C'est sûr que là, on avait un paquet d'affaires. Ça permettait d'avoir des cinématiques pas mal plus longues. Ça permettait pas mal plein de choses. Si tu veux faire jouer, mettons, un extrait de l'excellente chanson. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont triper sur cette tune-là. Chrono Cross. Qui arrivait avec une des chansons vraiment merveilleuses qu'on retrouvait sur des jeux PlayStation.
Le graphique était incroyable.
Ouais. Pis ça, cette mélodie-là, là, à peu près toutes les orchestres de jeux vidéo la reprennent.
Ouais. Il y a un gars à Québec, un gars qui... écoute, il fait de la musique, il a déjà repris tous les gros thèmes des jeux qu'on jouait autrefois, puis il avait fait un spectacle. Je pense que dans le temps, c'était au Colisée Pepsi, mais c'était de toute beauté. J'y avais pas été, j'avais des amis qui avaient été, là, puis ils capotaient. Là,
okay.
Avec l'Orchestre symphonique de Québec. Là.
Ouais, ben voici, moi, le dernier que j'avais été voir, ça
Olivier
s'appelle...
Olivier Dufault.
L'orchestre du jeu vidéo, je pense que ça s'appelle de même. Puis tabarouette, c'est tout du monde bénévole. C'est pas des professionnels. Puis ils font ça au Grand Théâtre, c'est merveilleux. Pas au Grand Théâtre, mais au Palais Montcalm. Là, tu vois que c'est vraie musique, tu sais.
J'aime ça. Tu conclus avec?
Oui, ben là, c'est sûr qu'après ça, ben oui, PlayStation, Xbox, pis tout ça, ben là, on continue à faire évoluer les formats. La musique est devenue de plus en plus complexe. Les CD se sont transformés en DVD, les DVD en Blu-ray permettaient toujours plus d'espace. Puis les formats de compression aussi devenaient plus, je te dirais, tu sais, plus performants. Fait que là, tu pouvais faire de la musique. Maintenant, aujourd'hui, là, ils peuvent faire de la musique. Là, ça prend de l'espace, mais ça en prend beaucoup moins malgré l'immense qualité des tunes. Si tu prends, mettons, un trame sonore de Uncharted 3, si tu regardes ça, qui était sorti sur PS3, qui est encore une de mes trames sonores préférées, c'est vraiment des tunes symphoniques avec beaucoup d'instrumentation là-dedans. C'est top qualité. Tu fais jouer ça dans ton système de son 5.1 channel. Tu sais, tout est rendu là.
On a comme projet de lancer une série sur Uncharted.
Ouais. D'ailleurs, ils ont commencé à la tourner.
Avec Tom Holland?
Oui.
Ça va être bon.
Ah oui?
J'ai hâte de voir, parce que c'est sûr que l'histoire, c'est avant ce qu'on a connu dans les jeux.
Il est
plus,
okay.
Quand que Nathan Drake est plus jeune. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Moi, j'aime Tom Holland, mais on dirait que je suis pas encore collé. J'ai hâte de voir. Ça reste à voir.
Mathieu dit, les meilleurs soundtracks de jeux 16 bits, c'est Mega Man X et Super Metroid.
Oui, c'est vrai. Ben ça, ça va avec les goûts, évidemment, là, ouais. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Puis, ben, c'est sûr que maintenant, la seule. C'est dur de faire de l'innovation dans les sons maintenant, dans la musique. Il reste plus grand-chose à faire. Tu sais, je veux dire, tout le monde est équipé. À part, on peut pas avoir des systèmes surround à 10 canaux puis 22 canaux.
Voilà.
La prochaine innovation, il y a Sony qui met sur une affaire qui s'appelle le son audio 3D avec la PlayStation 5, qui va peut-être avoir un penchant aussi sur la Xbox Series X. Fait que ça, on a hâte de voir c'est quoi. Parce qu'apparemment que oui, encore une fois, ça va réussir à nous mettre encore pas mal plus au centre de l'action quand on joue à des jeux. Fait que ça va être pas mal ça.
On te rejoint comment? Mettons qu'on a plein de questions à te poser puis on va entendre parler de l'industrie du jeu vidéo, Marc.
Ben, les plateformes les plus faciles pour nous rejoindre vite comme ça avec des messages, ben là, notre Facebook évidemment puis notre Twitter. Si vous voulez suivre sur notre site web www.m2gaming.ca puis évidemment notre chaîne YouTube M2 Gaming Canada.
Merci Marc.
Hey! Juste avant de finir, merci à vous autres pour la vitrine que vous nous avez donnée à choix. C'est vraiment génial.
On n'a rien
merci
à voir passer. Là-dedans, vous êtes les meilleurs.
Non, mais...
On invite les meilleurs.
Ben, merci de votre présence pour l'été, en fait.
Ben, exactement.
Vraiment.
Yes.
Salut, bye-bye.